Vous écoutez On lit pour vous.
Des déserts grouillants de vie. Les incroyables stratégies d'adaptation face aux conditions extrêmes. Un texte de la rédaction de Science et Vie en partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle de France, paru le 23 octobre 2025 dans Science et Vie. Lézards capables de faire remonter l'eau par capillarité. Plantes cailloux cachées sous terre, crapauds attendant la pluie des années. Les déserts constituent des laboratoires spectaculaires de l'évolution. L'exposition « Déserts » du Muséum national d'histoire naturelle nous fait voyager dans ces écosystèmes extrêmes où animaux et végétaux déploient des trésors d'ingéniosité de l'Arctique à l'Atacama. Une plongée scientifique et ludique dans l'art de l'adaptation à découvrir jusqu'au 19 avril 2026 à la Grande Galerie de l'Évolution à Paris. Capter et conserver l'eau. L'accès à l'eau est l'enjeu primordial de toute forme de vie dans le désert. Et si certaines plantes sont capables de faire plonger très profondément leurs racines, ce n'est pas nécessairement la stratégie optimale. Des réseaux racinaires latéraux et ramifiés, très étendus dans la couche la plus superficielle du sol, sont aussi très efficaces pour capter l'eau en milieu aride. Il faut pouvoir capter l'eau de la rosée ou du brouillard, développe Denis Larpin, responsable scientifique des collections végétales tropicales des jardins botaniques du Muséum, l'un des commissaires scientifiques de l'exposition « Déserts ». Cela peut aussi se faire par les tiges et les feuilles, via les stomates, des pores permettant des échanges gazeux entre l'air et la plante, ou encore des poils spécialisés. Dans le règne animal, le moloch, ou lézard à cornes, parvient à faire remonter l'eau par capillarité. Dès que le sol est assez humide, il va baisser la tête et faire remonter l'eau via ses pattes vers la bouche, détaille son collègue Anthony Herrel, directeur de recherche CNRS, spécialiste en anatomie comparée, morphologie fonctionnelle et biologie de l'évolution au Muséum. Certains coléoptères optent pour une position similaire en haut des dunes pour récolter le brouillard condensé sur leur abdomen avant de le laisser s'égoutter vers leur bouche. Une fois l'eau captée, il faut la stocker, spécialité des cactus, mais pas seulement. On retrouve des procédés proches dans le monde animal, notamment avec des réserves de graisse qui vont permettre de produire de l'eau métabolique, ajoute Anthony Herrel. C'est le cas des grands mammifères comme les chameaux, mais aussi par exemple du lézard fouette-queue. Une queue justement remplie de gras, transformée au besoin en eau par le métabolisme du saurien. Les herbivores vont naturellement puiser l'eau directement dans la nourriture, notamment dans des graines stockées en sous-sol qui donneront une source d'eau en période de sécheresse, explique le commissaire de l'exposition des airs. Stratégie utilisée notamment par le rat kangourou qui réhydrate ses graines dans son terrier humide avant de les consommer. Résister aux températures extrêmes. Pour les mammifères, la fourrure constitue une protection ultime en milieu polaire. Celle de l'ours blanc, qui va jusque sous ses pattes, retient la chaleur corporelle via des poils creux remplis d'air qui vont retenir les rayonnements infrarouges émis par la peau de l'animal. En dessous, sa peau noire, absorbe la chaleur du soleil, alors qu'une couche de graisse pouvant atteindre 10 cm complète la protection. Ainsi, entre l'air ambiant et l'intérieur du pelage, l'écart de température est de plusieurs dizaines de degrés sur une quinzaine de centimètres de fourrure. Une capacité de rétention des émissions infrarouges qu'on retrouve chez le renard ou le lièvre arctique. À l'inverse, dans le Sahara, la fourmi argentée va dissiper sa chaleur corporelle sous forme de rayonnement infrarouge grâce à ses soies particulières. Une méthode qui lui permet de sortir aux heures chaudes, quand les prédateurs sont au repos, pour se nourrir. mais seulement quelques minutes, sans quoi elle meurt. L'enfouissement est une autre solution. Certaines plantes sont en partie enfouies dans le sol pour se protéger des températures extrêmes. C'est le cas des plantes cailloux comme les lithopes présentées dans l'exposition, détaille le botaniste Denis Larpin. Les spécimens présentés ne laissent émerger que leurs petites feuilles dotées à leur extrémité d'un tissu transparent qui laisse passer la lumière jusqu'au chloroplaste situé sous la surface du sol. La photosynthèse peut alors se faire dans de meilleures conditions, c'est-à-dire, étonnamment, à l'abri direct du soleil. Chez les animaux, la vipère des sables ou des insectes s'enfouissent également pour perdre quelques degrés aux périodes les plus chaudes. S'adapter à une autre temporalité. Dans le désert, tout est question de timing pour trouver la période la plus propice à la recherche de nourriture, généralement la nuit ou à la reproduction. Certains animaux vont utiliser une stratégie d'évitement des conditions extrêmes pour n'être actifs que lors de conditions favorables quand la pluie arrive, explique Anthony Herrel. C'est le cas du crapaud pied en bêche qui creuse dans le sol et attend dans un cocon toute l'année. Quand il pleut enfin dans le désert d'Arizona, c'est une véritable explosion de vie. Des milliers de ces grenouilles vont sortir, se reproduire dans les mares temporaires et dérouler tout leur cycle de vie en 2 semaines. Les têtards naissent, se métamorphosent, puis les petits creusent le sol et attendent la prochaine pluie, 1, parfois 2 ans plus tard. Il en va de même pour des plantes au cycle de vie spécifique, comme le décrit Denis Larpin. Comme les animaux qui peuvent rester au repos jusqu'au retour de périodes plus fraîches ou pluvieuses, certaines plantes dites « éphémères » vivent sous forme de graines dans le sol en attendant les pluies des mois ou des années. Lorsque ça arrive, la germination se fait très rapidement, ajoute le botaniste, qui montre ensuite une rose de Jéricho. À première vue, une boule sèche est morte, mais même morte et déshydratée, elle abrite des graines vivantes. À l'arrivée de la pluie, les rameaux de la plante se déploient de façon mécanique et les graines peuvent germer. Un nouveau cycle commence. C'était des déserts grouillants de vie. Les incroyables stratégies d'adaptation face aux conditions extrêmes. Un texte de la rédaction de Sciences et Vie, en partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle de France, paru le 23 octobre 2025 dans Sciences et Vie.
La mère d'un jeune autiste dénonce un accès à l'hébergement opaque et inhumain, un texte de Sébastien Tanguay, publié le 30 novembre 2025, dans Le Devoir. La mère d'un adolescent autiste de 17 ans dénonce un mécanisme d'accès à l'hébergement, MAH, qui ferme des portes au nez de son fils, plutôt que d'en ouvrir. Magali Poulain déplore l'opacité d'un processus inhumain qui consulte peu les familles et qui, dans son cas, refuse à son grand garçon une place dans une ressource intermédiaire située à 15 minutes de chez elle. Au bout du chemin forcément tortueux qu'un cœur de mère doit emprunter pour confier son enfant à d'autres soins que les siens, Magali Poulain a trouvé l'inespéré. En janvier dernier, une résidence familiale, humaine et à proximité de chez elle, et où son grand garçon pourrait s'épanouir, elle en était certaine. On est tombé amoureux du lieu et de la personnalité de la personne qui tient l'établissement souligne son conjoint, Patrick Campagna. Tous les deux, nous nous sommes dit, c'est là qu'on veut qu'il aille. La famille Beauceron a donc déposé une demande d'hébergement auprès de la seule instance habilitée à l'octroyer, le MAH du 6 de Chaudière-Appalaches. Ça a été une décision très émotive. Dans ma vie, je pensais qu'il allait toujours habiter avec moi. Mais je me rends compte qu'il vieillit et que je vieillis moi aussi, raconte Magali Poulain. Avec l'aide d'une travailleuse sociale, elle a soumis en septembre le formulaire nécessaire à la demande. Ce document de 10 pages, consulté par Le Devoir, dresse le portrait des habitudes et des problématiques affectant son fils. Le formulaire note que l'adolescent souffre d'anxiété et peut montrer une certaine agressivité lorsque des imprévus chamboulent sa routine ou que des bruits trop forts troublent son environnement. Le document suggère des solutions simples pour offrir des repères temporels à ce grand enfant. Afficher un semainier visuel clair, utiliser un minuteur pour encadrer ses activités et lui accorder du temps pour traiter des informations, par exemple, permettent de prévenir ou de tempérer les crises engendrées par l'inattendu. Le garçon que sa mère demande de ne pas identifier sur la place publique a certes besoin d'une aide partielle pour la réalisation de tâches quotidiennes comme s'habiller, se laver et se brosser les dents. Mais le formulaire souligne que l'adaptation de l'enfant s'effectue rapidement et que les routines peuvent être acquises très vite. Ce n'est pas rempli de négatifs, précise Patrick Campagna. Nous racontons que nous allons au cinéma avec lui, que nous allons à Old Orchard, que nous l'amenons dans les restaurants, que c'est possible, dans le fond, de faire plein de choses avec lui quand nous nous y prenons de la bonne manière. Un refus sans appel. Le 7 novembre dernier, le MAH a rendu sa décision. Le garçon ira dans une résidence à assistance continue contre la volonté de sa mère. Point final. Il s'agit d'une solution de dernier recours, dénonce Magali Poulain, qui confinerait son fils dans un milieu institutionnel s'approchant davantage d'un CHSLD que du milieu familial dont elle rêvait pour lui. Et ses ressources sont déjà souvent à bout de souffle. La mère refuse de se plier à ce verdict sans d'abord se battre pour son garçon. « C'est inhumain que l'État s'accorde le droit de décider de l'avenir de mon fils sans me consulter. Jamais le MAH n'a rencontré mon garçon. Jamais il ne m'a parlé directement avant de prendre cette décision qui est tellement importante pour ma famille. » Magali Poulain comprend d'autant plus mal cette décision que la ressource intermédiaire acceptait d'évaluer son fils en vue de savoir si son milieu, habitué à travailler auprès des jeunes atteints d'un trouble du spectre de l'autisme, correspondait à ses besoins. C'est inhumain que l'État s'accorde le droit de décider l'avenir de mon fils sans me consulter. Magali Poulain. Des jeunes comme lui, c'est ma clientèle, explique au Devoir la directrice générale de la résidence qui préfère demeurer anonyme. Le 6 de Chaudière-Appalaches m'a envoyé une liste de comportements observés chez lui et m'a demandé si j'étais prête à aller plus loin. J'ai répondu « Oui, j'aimerais aller de l'avant, puis connaître son dossier complet », ajoute-t-elle. Le 6 n'a jamais donné suite à cette ouverture, sinon pour indiquer à la ressource intermédiaire que l'adolescent irait dans une résidence à assistance continue. En 20 ans, ça ne m'était jamais arrivé que j'accepte un dossier et qu'on me dise non par après, poursuit la directrice générale. Une mécanique déjà dénoncée. Le cadre de référence qui gouverne les MAH du Québec depuis 2023 souligne que le placement d'une personne vulnérable dans une ressource d'hébergement doit résulter d'une réflexion qui se fera impérativement avec la participation active de l'usager et de ses proches en tenant compte de leur opinion. Le 6 de Chaudière-Appalaches assure que les familles ont voix au chapitre. Les proches de la personne sont rencontrés afin de collaborer à la complétion d'un formulaire visant l'identification du fonctionnement et des besoins de la personne, écrit sa porte-parole. Aux yeux de Magali Poulain, toutefois, le système impose bien plus qu'il collabore. Et la mécanique de l'hébergement des personnes vulnérables au Québec continue de grincer depuis que la protectrice du citoyen a braqué une lumière peu flatteuse sur elle en 2021. À l'heure actuelle, les mécanismes d'accès privilégient une évaluation principalement liée aux besoins cliniques de la personne. Les besoins socio-affectifs sont peu considérés, déplorait Marie Rinfret à l'époque. Le ministère de la Santé et des Services sociaux, M3S, précise que le cadre de référence constitue la réponse principale aux recommandations de la protectrice du citoyen. Il ajoute toutefois qu'un manquement au principe qu'il énonce n'entraîne aucune sanction. Magali Poulain, en processus de retour au travail à la suite d'un accident de la route survenu en février 2024, doit décider d'ici quelques jours si elle accepte le verdict du MAH, et ce, sans savoir où l'éventuelle résidence à assistance continue de son garçon se situera, ni à quelle date il pourra l'intégrer. Comment l'État peut me demander de choisir l'avenir de mon fils avec si peu d'informations? J'ai l'impression que mon garçon se résume, à leurs yeux, à un numéro. Je m'en suis occupée pendant 17 ans et j'ai un certificat en trouble du spectre de l'autisme. Mais c'est comme si ça ne comptait pas. C'est comme si mon opinion, en tant que mère, ne valait rien. Et je refuse d'accepter ça. C'était « La mère d'un jeune autiste dénonce un accès à l'hébergement opaque et inhumain », un texte de Sébastien Tanguay, publié le 30 novembre 2025 dans Le Devoir.
Pour réduire le risque de démence, une étude révèle qu'il faudrait consommer régulièrement du fromage. Une réponse inattendue à un défi sanitaire mondial. Un texte de Laurie Henry, paru le 24 novembre 2025 dans Science et Vie. Alors que le vieillissement de la population mondiale accélère, la démence s'impose comme un défi sanitaire majeur. En 2025, plus de 50 millions de personnes en sont atteintes, un chiffre appelé à tripler d'ici 2050 selon l'OMS. Le Japon, avec l'un des taux de vieillissement les plus élevés, est en première ligne. 12,3% de ses habitants de plus de 65 ans vivent déjà avec la maladie. Face à l'absence de traitement curatif, l'attention se porte sur les facteurs modifiables, notamment l'alimentation. Une étude publiée en octobre 2025 dans la revue Nutrients et menée par des chercheurs du Centre national de gériatrie et de gérontologie de l'Université de Niimi et de l'Université de Chiba, apporte un éclairage inattendu. Une consommation hebdomadaire de fromage pourrait modestement réduire le risque de développer une démence. Une piste alimentaire intrigante dans un pays où le fromage reste marginal. Une étude rigoureuse sur une population vieillissante. L'étude s'appuie sur une cohorte japonaise représentative et robuste. 7 914 personnes âgées de 65 ans ou plus vivant à domicile, sans antécédent de certification en soins de longue durée. Elle repose ainsi sur les données du programme JAGES, Japan Gerontological Evaluation Study, de 2019 à 2022. Les participants ont été répartis équitablement entre deux groupes. D'un côté, ceux consommant du fromage au moins une fois par semaine. De l'autre côté, ceux n'en mangeant jamais. Pour réduire les biais, les chercheurs ont appliqué une méthode de « propensity score matching ». Elle permet de créer des groupes statistiquement comparables sur des variables clés telles que l'âge, le sexe, les revenus, le niveau d'éducation, l'état de santé auto-évalué et les capacités fonctionnelles. Les chercheurs mesurèrent la survenue de démence via les certifications administratives d'assurance dépendance, un indicateur couramment utilisé au Japon. En 3 ans, 134 personnes, 3,4%, parmi les consommateurs, ont développé une démence contre 176, 4,5% chez les non-consommateurs. Cette démence, bien qu'apparemment modeste, correspond à une réduction de 24% du risque relatif. Les chercheurs insistent, il ne s'agit pas de démontrer une causalité, mais d'observer un lien suffisamment solide pour justifier des investigations supplémentaires. Dans un contexte de vieillissement accéléré, cette étude contribue à identifier des leviers accessibles pour prévenir la démence à l'échelle de la population. Une composition nutritionnelle favorable à la santé cérébrale. Les auteurs suggèrent plusieurs mécanismes biologiques pouvant expliquer l'association observée. Bien que l'étude ne mesure pas directement ces mécanismes, elle s'appuie sur des connaissances établies sur les nutriments présents dans le fromage, notamment dans ses versions fermentées. Le fromage constitue une source de vitamine K2, nutriment liposoluble. Il joue un rôle essentiel dans la santé vasculaire et le métabolisme du calcium. Or, des troubles vasculaires, comme l'hypertension ou l'athérosclérose, sont réputés augmenter le risque de démence, en particulier la démence vasculaire. La vitamine K2, en régulant la calcification vasculaire, pourrait ainsi contribuer indirectement à la protection cognitive. Le fromage apporte également des protéines et des acides aminés essentiels. Ils soutiennent le fonctionnement neuronal. Certains peptides bioactifs libérés lors de la fermentation pourraient exercer des effets anti-inflammatoires ou antioxydants. Il s'agit de deux voies biologiques fortement impliquées dans le déclin cognitif. Autre piste explorée par les chercheurs, le microbiote intestinal. Le fromage fermenté, comme le camembert ou le brie, contient des probiotiques capables de moduler l'axe intestin-cerveau. De nombreuses études ont établi un lien entre déséquilibre du microbiote et pathologies neurodégénératives, y compris Alzheimer. Cependant, dans cette étude japonaise, 82,7% des participants déclaraient consommer du fromage transformé. Ce dernier se montre moins riche en probiotiques et nutriments bioactifs que les fromages affinés. Seuls 7,8% consommaient des fromages à moisissure blanche. Cela indique que les bénéfices observés pourraient être liés à des effets cumulés plus subtils de l'alimentation dans son ensemble ou à d'autres composants encore mal identifiés dans les produits laitiers. Une alimentation révélatrice de comportements de santé globaux. L'analyse secondaire menée par les chercheurs a permis d'ajuster les résultats en fonction des habitudes alimentaires générales des participants. Ceux qui mangeaient du fromage avaient aussi tendance à consommer plus souvent des fruits, des légumes, de la viande ou du poisson. Or, ces aliments se voient eux-mêmes associés à un meilleur vieillissement cognitif. Cette observation soulève une question essentielle. L'effet protecteur provient-il du fromage lui-même ou reflète-t-il une alimentation globalement plus équilibrée? Pour y répondre, les auteurs ont intégré ces variables dans un modèle statistique complémentaire. Après ajustement, la réduction du risque de démence associée au fromage passe de 24% à 21%. Un effet légèrement atténué, mais toujours significatif. Cela suggère que le fromage pourrait jouer un rôle spécifique au-delà d'un simple marqueur de régime alimentaire sain. La fréquence de consommation a aussi son importance. 72,1% des participants déclaraient en manger une à deux fois par semaine. De fait, un apport modéré semble suffisant pour produire un effet observable à l'échelle populationnelle. d'autres facteurs comportementaux pourraient entrer en jeu. Les consommateurs de fromage présentaient également de meilleures fonctions dans les activités instrumentales de la vie quotidienne, courses, gestion de l'argent, préparation des repas, et une moindre fréquence des plaintes de mnésique. Ces éléments pourraient indiquer un meilleur état cognitif de départ, non totalement contrôlé par les analyses. Limites de l'étude et perspectives pour la recherche et la santé publique. Si cette étude constitue une contribution sérieuse au débat scientifique, elle comporte des limites méthodologiques importantes que les auteurs eux-mêmes reconnaissent. D'abord, la consommation de fromage ne fut évaluée qu'une seule fois au début de l'étude, et sans prise en compte des quantités ni des évolutions dans le temps. Il demeure donc impossible de déterminer un seuil optimal de consommation ou d'évaluer un effet cumulatif. Ensuite, les données sur la démence proviennent de fichiers administratifs liés aux certifications d'assurance dépendance et non de diagnostics médico-cliniques. Cela limite la précision des données, notamment pour distinguer les différents types de démence. Autre limite majeure, l'absence de prise en compte de facteurs génétiques comme l'APOE epsilon 4, gène connu pour augmenter le risque de maladie d'Alzheimer. Sans cette donnée, il reste difficile d'évaluer dans quelle mesure l'effet observé s'applique à toutes les catégories de population. Enfin, le contexte japonais mérite d'être souligné. Le fromage s'y trouve très peu consommé, 2,7 kg par an par personne, bien en deçà des niveaux observés en Europe. Il se peut donc que de faibles variations d'apport aient un impact plus marqué dans cette population que dans des pays où la consommation reste plus élevée. Cela limite la généralisation immédiate des résultats. Malgré ces réserves, les auteurs estiment que les résultats peuvent guider des actions de santé publique. En particulier, ils encouragent la recherche sur les effets spécifiques des différents types de fromage, la durée de consommation et les interactions avec d'autres facteurs de risque. À terme, ces travaux pourraient nourrir des recommandations alimentaires ciblées pour le vieillissement cognitif. C'était « Pour réduire le risque de démence », une étude révèle qu'il faudrait consommer régulièrement du fromage. Une réponse inattendue à un défi sanitaire mondial. Un texte de Laurie Henry, paru le 24 novembre 2025 dans Science et Vie.